Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du FaberCast. Je suis votre animateur FaberGlass et puis cette semaine, vous le constatez, on est dans un setup différent. Je pense qu'on peut officiellement dire que c'est la fin du vieux setup là avec mon cadre de Pink Floyd dans le coin. C'est pas compliqué, ce setup là dans le fond, il est juste là, c'était sur mon lit. Puis je filmais tout avec un cellulaire. Maintenant, j'ai une caméra, j'ai une vraie caméra qui existe. On va essayer de faire ça plus beau pour vous. Pour l'instant, je suis assis ici parce que dans le fond, le frame était juste vraiment trop grand là, sur la caméra. Donc si je suis assis sur mon lit, soit que je zoomais full sous ma face puis c'était bizarre, soit je gardais le setup grand puis vous voyez mon lit avec mes couvertes puis plein d'affaires étendues. Chose qui est arrivée des fois dans les anciennes vidéos, je vous dirais. Je stressais pas full avec ça. Mais à ce qu'on a une caméra qui en vaut la peine, on va essayer de faire ça beau pour vous. Puis ce setup, si je vous le dis tout de suite, là, c'est absolument temporaire. J'ai pas un bon éclairage. Vous voyez ma casquette, ça enlève de l'éclairage dans ma face. C'est pas grave ça, parce qu'en fait, je me suis acheté une lumière aussi. Je me suis acheté plein d'affaires. Ça s'en vient par Amazon. Quand je vais tout recevoir ça, je pense vraiment que je vais juste faire le setup dans une autre pièce dans la maison, là, puis que je vais avoir à me déplacer dans ma chambre. Maudit, comment je vais faire ça pour filmer mes vidéos. Mais je pense que je vais me faire un setup qui va toujours rester en place, que ça va toujours être pareil. Quelque chose de beau, quelque chose qui a de la rue. Fait que ceci étant dit, c'est le FaberCast cette semaine, on est de retour la semaine passée. Je pensais vous en faire un, mais je me suis dit, ça va faire deux semaines consécutives. Vous êtes un FaberCast que je suis là, puis là, j'ai dit toutes mes mentions de l'année au Canada. Puis là, le FaberCast de la semaine prochaine, ben, j'étais encore planté là devant ma caméra, puis je dis mes mentions de l'année 2019 en MMA, et puis mes mentions de la décade en MMA. Fait que ça fait beaucoup de listes. J'ai sorti un vidéo chaque jour pour mes honneurs canadiens, là, mon combat de l'année au Canada, mes KO de l'année, soumission de l'année, combattant de l'année, recrue de l'année, toutes les listes que vous pouvez imaginer. J'ai fait un vidéo à tous les jours de la semaine, c'est sur la page MMA Talk, allez voir ça. Puis sur YouTube aussi, là, d'ailleurs, sur le YouTube de MMA Talk, on dirait, j'oublie de parler du YouTube des fois, mais ça existe quand même, il est là. Et puis c'est ça, c'est fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on met vraiment, là, on ferme la boucle sur la décade, sur les années de 2010 à 2019. C'est la fin, on est en 2020, c'est le début d'une nouvelle décennie. Et puis, je vous présente mes honneurs de la décennie en MMA. Avant, je vous présente mes honneurs de 2019. On n'a pas le choix de faire ça quand même. Hein. C'est quand même quelque chose qui est important. Et puis, je vous présente mon combat de l'année, mon round de l'année, KO, soumission, toutes plein de catégories. Et finalement, je vais terminer l'épisode avec des souhaits pour l'année 2020, dans le but de regarder vers le futur, de regarder ce qu'on veut là en 2020 en MMA, autant mondial qu'au Canada. Et puis ça va à peu près être ça l'épisode du FaberCast cette semaine. Alors pourquoi ne pas commencer à l'instant avec le combat de l'année 2019? Je pense que c'est la catégorie la plus importante. Fait qu'on va commencer, on va peut-être mixer d'autres catégories en dessous que le monde care un peu moins. Mais on va essayer de toujours faire des grosses catégories là, au moins à toutes les deux catégories. Donc on commence ça immédiatement. Combat de l'année 2019 en MMA. J'ai quelques mentions honorables parce que vous le savez, moi, j'étais un gars de mentions honorables. Et puis, ce sont les suivantes. Henry Corrales contre Aaron Pico. Un combat d'un round, moins d'un round en fait, absolument ridicule au Bellator 214. Paul Felder contre Edson Barboza 2 à l'UFC 242. Très bon combat. On a Yair Rodriguez face à Jeremy Stephens à l'UFC Boston. Quand c'est arrivé, pas la fois que ça soit au poke des yeux puis ça a duré 15 secondes. Henry Cejudo contre Marlon Moraes, excellent combat à l'UFC 238, et Charles Jourdain, Duo Choi, une late edition, mais quel combat absolument ridicule, et un des grands moments de l'année, on va avoir la chance d'y revenir. Donc mes combats de l'année, top 10 au numéro 10, Stipe Miocic, Daniel Cormier 2, c'est un combat qui était bon, qui était enlevant, mais qui était tout à l'avantage là, de Daniel Cormier, qui semblait vraiment avoir son way avec Stipe dans ce combat-là, semblait être meilleur que jamais debout avec sa boxe, plus crisp que jamais, landait des bons coups, outlandait Stipe. On se disait, qu'est-ce que Stipe va faire? Puis un moment donné, il est arrivé avec un ajustement au round 4, des body shots, et DC a juste jamais défendu les body shots, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça a fini avec un KO pour Stipe Miocic, qui a repris son titre, qui va forcer la trilogie. C'est un excellent combat, c'est un main event qui a capé une soirée absolument incroyable. On va revenir sur mes cartes de l'année, à quel point l'UFC 241 était incroyable. Donc, Cormier contre Miocic 2, je l'ai au 10e rang de ma liste des combats de l'année 2019 en arts martiaux mix. Numéro 9, Pedro Munhoz contre Cody Garbrandt. S'il fallait que je mette un combat de moins d'un round là-dedans, ben c'est celui-là. Ça a été un combat qui a commencé plutôt tranquillement, mais Pedro Munhoz semblait vraiment vouloir forcer Cody Garbrandt à brawler avec lui, parce qu'on le sait que c'est ça qu'il faut faire avec Cody Garbrandt. Il est tellement bon, Cody Garbrandt, qu'il est technique. Si tu le laisses juste être à distance, réfléchir, faire ses choses, va pas mal te battre à tout coup, mais ça a été vraiment établi que ce pauvre gars-là est excessivement émotionnel, puis se bat émotionnellement, puis si tu le fâches, ben il va se battre comme un gars fâché, puis il est plus bon quand il se bat fâché, parce que il brawl, puis il fait juste absorber tes coups en voulant t'en renvoyer des plus gros, puis la seule chose qui se passe dans sa tête, c'est « je vais le frapper plus fort qu'il me frappe, je vais le frapper plus fort qu'il me frappe », donc c'est ça qui est arrivé. Et puis, ben, il s'est fait passer un KO par Pedro Munhoz, quelque chose d'assez inattendu, mais ça a été un round, moins d'un round, absolument ridicule. C'était à l'UFC 235. C'est mon 9e combat préféré de l'année. Au numéro 8, Justin Gaethje, Edson Barboza. Que dire d'autre? Ça aussi, je pense que ça a juste duré un round, hein, mais Gaethje qui arrive puis qui leg kick Barboza comme s'il était lui-même Edson Barboza avant de lui passer un KO dans un combat absolument ridicule. C'était un des meilleurs combats de l'année à l'UFC on ESPN 2 au début de l'année. C'est un combat plus vieux peut-être un peu, mais c'était absolument excellent. On y va par la suite au 19-7. Tabarnou, je parlais déjà mon pointage. Au 7e rang du combat de l'année, c'est Tony Ferguson contre Donald Cowboy Cerrone. Puis ce combat-là, ce qui est plate, c'est ben, que ça aurait pu durer plus longtemps. C'est Cowboy avait pas fait la gaffe de se moucher entre le 2 et le 3e round. Ce combat-là aurait continué, malheureusement. Son œil a fermé au complet. Mais c'est absolument du show là, pour le temps que ça a duré. Donc, j'ai pas le choix de le mettre quand même un peu plus bas que j'aurais voulu. Mais je pense que le fait qu'on s'est fait voler un peu du 3e round, ça me force à le mettre un peu plus bas. C'est la même chose pour mon numéro 6, finalement, qui est de BMF Title Fight, Jorge Masvidal, Nate Diaz. Bien que c'était pas un combat si compétitif que ça, c'était un bon combat, c'était le fun. J'ai apprécié chaque minute que ce combat-là a duré. J'étais autant déçu que tout le monde aussi lorsqu'il a été arrêté à cause de la coupure de Nate Diaz. On a vu les memes sur le docteur puis tout le temps que ça a fait par après. Mais le temps que ça a duré, c'était absolument génial. Puis il y avait tellement d'engouement, tellement de hype derrière ce combat-là. On sentait qu'on était en train de vivre un moment spécial quand on a assisté à ce combat-là. Et puis, ben, le fait que ça l'a arrêté vite, oui, ça me force un peu, comme Ferguson contre Cowboy, à le mettre plus bas sur la liste, mais néanmoins, c'est un des meilleurs combats de l'année, c'est un des événements de l'année, puis on n'a pas le choix de le mettre sur cette liste-là, parce que pour le temps que ça a duré, j'ai grandement apprécié, puis j'avais l'impression de vivre quelque chose de spécial. Top 5. Vicente Luque contre Brian Barberina à l'UFC on ESPN 1, c'était à Phoenix, ça si je me trompe pas, c'est la carte de Velasquez contre Ngannou. Bref, combat absolument épique, combat qui est plus vieux dans l'année, donc je pense que beaucoup de gens ont oublié, mais au moment où ce combat a eu lieu, c'est pas mal tout le monde dit que c'était le meilleur combat de l'année là, jusqu'à présent, puis ça a été longtemps probablement le fight of the year, ça du moins jusqu'à l'UFC 236, donc combat absolument ridicule. Brian Barberina est un peu réputé comme étant le gars super tough, qui va fight back à tout coup, même s'il est outmatch. Il a réussi à tester Luque, il a réussi à le sonner. Il y a des moments qu'on s'est demandé, coudon, est-ce que c'est Barberina qui va finir Luque dans ce combat-là? Mais finalement, personne n'a fini personne. C'était absolument épique. Une décision de 15 minutes à couper le souffle pour vrai. Un des meilleurs combats de 15 minutes de 3 rounds que j'ai vu. Et ça, depuis des années. Donc, j'avais pas le choix de le mettre dans le top 5 de la liste. Vicente Luque face à Brian Barberina. Ça nous mène au numéro 4. Combat qui faisait peut-être un peu peur aux gens là avec qui arrive parce que c'était juste vraiment trop beau pour être vrai. Vous avez Paulo Costa, Yoel Romero, c'est juste trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose qui va arriver, soit ça arrivera pas, soit ça sera pas aussi bon qu'on pense que ça pouvait l'être. Il faut qu'il arrive quelque chose à ce combat-là, ça peut pas être aussi beau que ça en a l'air. Finalement, c'était absolument aussi beau que ça en avait l'air, et même plus. Le premier round de ce combat-là était quelque chose d'absolument ridicule. Les deux qui se qui posturait, se tentait, là, se faisait des signaux un à l'autre en riant un peu un de l'autre durant le combat. Puis ils ont trop d'em bungalows, là, les deux plus gros gars de la division qui se sont tout lancés par la tête durant 15 minutes. Décision peut-être un peu controversée en faveur de Paulo Costa. On en reviendra dans ma section des divisions, les pires décisions de l'année. Mais... Non, excellent combat, mérite sa place dans le top 4 des meilleurs combats de l'année 2019. Et puis, ça nous mène au numéro 4, au numéro 3, qu'est-ce que je dis là? Au numéro 3, Dustin Poirier, Max Holloway, UFC 236, le co-main event de la soirée pour le championnat intérimaire de 155 livres. Dans le fond, le gagnant allait affronter Khabib à Abu Dhabi. Et c'est Poirier qui a gagné le combat avec son power. On a Holloway qui a vraiment essayé de jouer sa game de volume, mais Dustin n'avait qu'à mettre une bonne droite ou une bonne gauche ou un bon ou n'importe quoi dans le milieu et forçait Max Holloway à reculer avec son power. Puis c'est une des seules personnes qu'on a vu reculer Max Holloway. C'est Max Holloway, c'est un gars qui avance, c'est un gars qui n'est pas capable de faire autre chose que ça vraiment. Et puis c'est la première fois qu'on le voyait se faire back up là, par du power, quelqu'un qui le frappait assez fort pour le décourager d'avancer. Ça a donné droit à un des meilleurs combats de l'année, probablement un des meilleurs combats de la décennie là. Le top 3 des combats de cette année sont vraiment des combats absolument incroyables. Et Poirier Holloway se retrouve au numéro 3 pour moi, ce qui nous mène au numéro 2. Kamaru Usman face à Colby Covington à l'UFC 244. Pour tout l'engouement aussi qu'il y avait alentour de ce combat-là, Colby Covington qui arrêtait pas de parler, toute la population MMA au complet qui rêvait de le voir se faire shutdown, de le voir se faire fermer la gueule. Puis comment plus le voir se faire fermer la gueule que le voir se faire casser la gueule dans tous les sens du terme. Et puis props à Colby dans ce combat-là parce qu'il a jamais arrêté, il a jamais reculé, même quand il s'est fait casser la mangeoire au round 3, il a continué à se battre jusqu'à la toute fin du combat. Et puis oui, Kamaru Usman a réussi à sortir un TKO là, en toute fin de combat pour sécuriser cette victoire-là qui allait nécessairement être all over the place, sûrement surtout qu'on a vu les cartes des juges là, par après, puis ça avait pas d'allure, ça allait pas avoir beaucoup d'allure. Et puis, non, c'est ça, Usman a réussi à se sortir avec un énorme TKO. Le fight n'a jamais compté, de round en round, l'engouement montait, l'action, le niveau d'action, le niveau de... tout montait dans ce combat-là. C'est vraiment un crescendo là, du début à la fin. Puis la fin est absolument géniale, grandiose. C'est un grand combat qu'on va se rappeler pendant longtemps et qui a vraiment mis la division 170 sur la map. Pas dans le sens que c'est une division qu'on oubliait. Ça a toujours été une des meilleures, une des plus profondes dans l'UFC. Mais je pense que c'est la division qui avait les meilleurs combattants pour lesquels les gens étaient les moins intéressés, si je peux le dire ainsi. Surtout peut-être depuis le reign de Tyron Woodley. Puis là, oui, il a perdu contre Usman, mais c'était pas le plus grand des combats, disons-le. Ainsi, fait que je sais pas si les gens étaient prêts à investir là, toute leur hype dans Usman. Mais je pense que ce combat-là contre Colby Covington a amené beaucoup d'yeux sur la division. Puis le combat a pas déçu. Fait que c'est un grand moment pour les welterweight, deuxième meilleur combat de l'année. Ce qui nous mène à notre combat de l'année. Je crois que c'est un consensus là, cette année. Il n'y a pas vraiment des gens qui prennent un autre combat que celui-là comme étant leur combat de l'année. Et avec raison, c'est Israel Adesanya face à Kelvin Gastelum pour le titre intérimaire des 185 livres. Mon Dieu, quand on a eu un pay-per-view avec deux championnats par intérim en combat principal et combat de demi-finale, on s'est dit, maudit, quelle merde ça va être, ça, des estis d'interim titles, c'est de la merde, on n'en veut pas de ça, ça sert à rien, pourquoi mettre des fake belts en jeu? Et puis finalement, ben, c'est parce que ça nous a donné droit à des combats de 5 rounds, puis je pense que c'est ça l'important là-dedans, parce que si Poirier contre Holloway avait chuté 3 rounds, ça aurait été très bon. Ça aurait pas été le plus grand combat de l'histoire. Adesanya contre Gastelum aurait sûrement été 5 rounds parce que ça aurait été le main event anyway. Donc je pense pas que le interim title change rien là-dedans. Mais c'était supposé être un title fight. Whittaker a abandonné. Adesanya a step in. Donc pourquoi pas laisser un genre de belt en jeu. Nous on s'en fout, ça a donné le combat de l'année. Un des meilleurs combats de la décennie. Kelvin Gastelum a démontré être un monstre. Je pense même que Kelvin Gastelum vraiment inflate son profile après ça, parce que contre Darren Till, oui, il a déçu, mais les gens pensaient qu'il allait smoke Darren Till, comme si Darren Till était absolument rien. C'est pas ça qui est arrivé, mais c'est cette performance-là contre Israel Adesanya qui a réussi à donner ce profile-là à Kelvin Gastelum. Puis pour Adesanya, ben, il nous a montré qu'il était pour vrai. Là, je pense qu'après ce combat-là, il n'y avait plus vraiment aucun doute que Israel était le prochain champion dans cette division-là. Puis ça a un peu legitimise le interim title, parce que après ce combat-là, on avait l'impression que la personne qui a dessus la ceinture, était le vrai champion de la division, puis il a été en mesure de le prouver dans son combat contre Robert Whittaker juste plus tard dans l'année pour aller chercher la vraie ceinture. Mais écoute, combat absolument épique. Au cinquième round, c'était clairement un combat très 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 serré. Le gagnant du cinquième round allait gagner ce combat-là. Adesanya a sorti probablement un des meilleurs cinquième rounds qu'on a vu de toutes nos vies. Puis à chaque fois que Gastelum semblait vouloir revenir dans le round, Adesanya faisait de quoi d'absolument incroyable pour reprendre le momentum, pour s'assurer que c'était son combat. Ce combat-là, c'est un classique absolu. On le savait à la fin du combat que c'est un des combats qu'on allait se rappeler depuis très longtemps. Ça va probablement être assez haut dans ma liste des meilleurs combats de la décade qu'on va couvrir peut-être un peu plus tard tantôt, mais... magnifique, génial combat de l'année, que dire de plus? C'était absolument ridicule. Bon, on va enchaîner tout de suite, beaucoup plus rapidement, avec ma deuxième catégorie, les rounds de l'année. Je pense pas que j'ai beaucoup d'explications à donner là-dessus d'un, parce qu'il y a beaucoup de ces rounds-là qui se retrouvent dans mes combats de l'année. C'est pour ça que je vais faire un peu les deux ensemble. Et puis, ben, parce que, tu sais, vous irez écouter le round, là, si vous vous demandez ce qui est arrivé. Mais bref, 5 mentions honorables, c'est Brandon Allen contre Holland. Pourquoi je vous sens donc? Kevin Holland, round 1, UFC Boston. On a Vicente Luque contre Barbara Arena, le premier round à Phoenix. Alessandre Pantoja contre Matt Schnell, le premier round à l'UFC Busan. Si vous avez pas vu ça, là, allez voir ça. Quand vous parlez d'un combat d'un round, c'est ça qui arrive. Poirier contre Holloway, rounder. Ça va de soi. Nunes contre Durandami, round 2. Le round où Durandami a failli finir Amanda Nunes. Si ce combat-là avait été aussi fou que les deux premiers rounds de ce combat-là, ça aurait été un combat légendaire. Malheureusement, ça n'a pas été ça. Mais bref, on doit donner le props à ces deux rounds-là. On y va avec le numéro 10. C'est le round 4 d'Adesanya contre Gastelum au moment où le combat commençait à pick-up. Puis Gastelum allait chercher du momentum. Puis on se disait, coudonc, Kelvin va-t-il être capable de gagner ce combat-là? Peut-être. C'était le moment d'incertitude complet dans ce combat-là. C'était magnifique. Et puis je l'ai 10e rang, ensuite 9e rang, Tim Means, Nico Price, premier round. Et quand tu fais un combat de Tim Means et Nico Price, tu dis pas mal que ce qui va arriver, ça va être très spectaculaire. C'est exactement ce qui est arrivé. Vicente Luque contre Barbarina, le premier round. Ça a commencé fort ce combat-là, comme je vous ai dit. C'était absolument génial. Ensuite, Nunes contre Durandami, round 1 quand Amanda s'est complètement gassante à essayer de finir Jermaine de toutes les façons possibles et imaginables. Et Jermaine n'a jamais bronché et resté dans le combat. C'était un des meilleurs rounds de l'année, et ça de loin. Ensuite, Munoz contre Garbrandt, round 1. Corrales contre Pico, round 1. J'en ai parlé dans les combats de l'année, j'ai pas besoin d'en reparler. Vraiment, ça nous mène au numéro 4. Marc-André Barriot, Andrew Sanchez, round 2. J'étais présent à Ottawa, et c'est un des moments les plus fous de ma vie. Là, quand Marc-André a commencé à lander ses uppercuts dans le clinch, puis là, lançait des strikes sur Sanchez, puis tout passait pour te dire, là, si, là, il va gagner son combat, ça va être écœurant, puis on capotait, puis en plus, j'étais assis dans la section, littéralement à côté de moi, il y avait tout le monde, il y avait ben les parents à Marc-André, ils étaient plus haut, mais ils sont descendus avec nous pas longtemps après, mais il y avait Charlie, il y avait Bosco, il y avait tous les chums, tu sais, à Barrio, tout le monde était là, toute la gang, on était tous là, ensemble, à gueuler, à capoter. C'est un des plus beau moment que j'ai vécu en écoutant des combats dans ma vie. Donc, je loue numéro 4, Barrio Sanchez, round 2. Ensuite, Gaethje Barboza, round 1. Que dire de plus? Numéro 2, Ben Askren, Robbie Lawler. Pour toutes les folies qui se sont passées, le slam sur sa tête, t'sais. Askren qui a essayé un takedown, Lawler qui lève, le slam sur sa tête, le finit 3-4 fois, Askren réussit à survivre, se relève, prend Lawler dans un headlock, le soumet pas, mais le soumet pareil, bref, absolument incompréhensible tout ce qui est arrivé dans ce round-là, puis pas le choix de le mettre au numéro 2, et au numéro 1, évidemment, j'en ai assez parlé, là, quelques minutes, c'est le 5e round d'Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum à l'UFC 236, c'est un des rounds les plus épiques que j'ai vu dans toute ma vie, puis j'ai pas le choix de le mettre là. On y va maintenant pour le knockout de l'année. Oh, ça se passe, j'ai des mentions honorables, comme dans toutes les catégories, en fait. Lima Douglas, de son prénom, face à mon vaillant primate, Michael Venom Page, Bellator 221. Il y a même un remix avec le Thor Hammer. C'est malade, vous checkerez ça. Johnny Walker contre Michel Cirkunov, son flying knee à l'UFC 235 en genre 15 secondes. Ensuite, on a le slam de Jessica Andrade face à Tug Rose. Mahmoud Mouradov, contre Trevor Smith, une des over and right les plus violentes que vous allez avoir vu cette année. Smith qui se faceplant, c'était à l'UFC Washington tout récemment. Et ma dernière mention honorable, Michel Pereira face à Leon Roberts, c'est le ref. Danny Roberts, flying knee to straight punch là à l'UFC Rochester, on s'en rappellera tous. Au dixième rang, c'est-à-dire des meilleurs KO de l'année, Jorge Masvidal, qui va peut-être commencer et finir la liste, qui sait, contre Darren Till, son over and left et la combinaison pendant qu'il est en train de tomber à terre. Absolument magnifique, rapide, surprenant, tous les aspects sont là pour un knockout magnifique. Donc c'est mon numéro 10, au numéro 9. C'est le Superman Punch avec la cage de Anthony Pettis face à Wonderboy à l'UFC Nashville. Comme le knockout d'avant, rapide, out of nowhere, super surprenant parce que personne s'attendait que Pettis batte Wonderboy. Et voilà, on a tous les ingrédients pour un knockout absolument incroyable. Ensuite, on tombe dans Head Kick Knockout Territory au numéro 8, Valentina Shevchenko, Jessica Eye, knockout semi-malaisant là, à l'UFC 238 où Eye est resté vraiment beaucoup trop longtemps au sol, puis on avait vraiment beaucoup moins de plaisir que quand on a vu le knockout. Le knockout était génial, le moment après où la pauvre fille était au sol en train de pas filer puis qu'elle se réveillait pas, il était moins nice, mais regarde, c'est ce qui arrive des fois avec des knockouts. Ça nous mène au numéro 7. Kevin Lee, Gregor Gillespie, UFC 244, le knockout paraît qu'il aura peut-être fait le plus de bruit ici vu que Kevin Lee est un boy du TriStar, mais écoute, c'est absolument génial, c'est un des gros knockouts de l'année, mais j'ai encore un head kick que j'ai préféré à celui-là, et puis c'est celui qui va être le plus haut dans ma liste des plus beaux head kicks de l'année que je mets au numéro 5 de la liste des knockouts de l'année. C'est Alexander Rakic contre Jimmy Manua. Le head kick en steppant, là, il était en combinaison, puis il a steppé sa leg en arrière comme étant sa front leg, puis il a laissé partir un kick de la gauche, que sa jambe gauche était rendue en arrière, il a laissé partir un head kick de la gauche. Manua ne l'a jamais vu, l'impact était terrifiant, le bruit était horrible, je vous le dis, c'est probablement le cope par head kick le plus violent que j'ai vu dans ma vie, là. Parmi les... C'est sûr qu'il a bossé contre Santos, là, qu'on se rappelle nous autres ici, mais c'était bossé contre Santos-esque, là. C'était vraiment, vraiment, vraiment violent. Puis sur Jimmy Manua, qu'on a un peu trop vu se faire allumer dans les dernières années, je pense que c'est encore pire. Donc, c'est au cinquième rang. J'ai au sixième rang, c'est-à-dire au cinquième rang, j'ai Luan Santiago contre Abdul Karim El Sawaldi au Brave CF 23, un spinning elbow. C'était sur YouTube, vous allez voir ça, vous allez comprendre que je l'ai mis sur la liste, vous irez voir ça. Luan Santiago au Brave FC 23, pas FC, CF, Brave Combat Federation 23. Vous irez voir ça sur YouTube, absolument malade. Numéro 4. C'est mon ami Nico Price qui a gagné le Knockout of the Year l'an dernier. Se reclasse encore très haut cette année avec son upkick sur James Vick à l'UFC Tampa Bay. C'était tellement James Vick de se faire knocker par un head kick. Puis c'est tellement Nico Price de knocker du monde avec des kicks quand il est sur son dos. Ou du moins pas avec des kicks parce que le premier coup c'était des hammer fist, mais il y avait comme le petit hook dans le menton là, qui tirait le menton dans son hammer fist. Donc on va donner beaucoup de crédit à ses jambes pour ce knockout-là sur Randy Brown l'an passé. Cette année sur Vick, ben, c'est 100% que ses jambes. Il l'a upkick dans la gueule pendant que Vic essayait de le ground and pound. Absolument magnifique. 100% James Vic. On pouvait pas s'attendre à mieux. Numéro 3. Johnny Walker contre Justin Ledet. Genre de hook kick qu'il a fait puis qu'il a fini ça avec un spinning back fist puis il te l'a allumé red puis c'était absolument magnifique puis on n'avait jamais vu ça de nos vies puis ça a genre duré comme 13 secondes ce combat-là, de quoi de même. Donc, c'est ça, magnifique. Il mérite sa place là. Shout-out à notre ami Johnny Walker, qui se sera trouvé comme pas mal deux fois dans cette liste-là, une mention honorable, et puis une fois au numéro 3. Au numéro 2, c'est Raymond Daniels, là, contre Barros, qui s'appelait son adversaire, je me rappelle plus trop ce que son prénom. Nous, on s'en sac, c'était le combat de Raymond Daniels, là, son adversaire était juste là pour se faire knocker. Puis c'est ça qui est arrivé, Raymond Daniels a genre fait un 720 sur lui-même, en lançant un kick. Puis on se dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a comme fait un tour, puis là, il a lancé un kick en faisant un deuxième tour. Puis là, son adversaire, il l'a comme évité, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Puis quand Raymond Daniels a fini sa rotation, ben il a placé un petit crochet direct sur la mâchoire, puis il l'a knocké, là, out Cold, c'était au Bellator Birmingham. Ça aussi, il y a des highlights de ça partout sur les internets. Vous irez voir ça. Je les mets pas, faut que je vous dise, dans mes vidéos canadiens, on s'entend que au Canada, là, je connais pas mal c'est qui les promoteurs, je leur parle, je leur dis, hey, yo, je peux-tu prendre des images de tes combats pour les mettre dans mon vidéo? Chose que je ne peux pas faire avec Bellator et avec l'UFC, puis je l'ai déjà appris à mes dépens, là. J'ai déjà des vidéos qui ont été délitées de YouTube par Bellator parce que j'avais utilisé des clips de Bellator. J'ai été barré de publier sur la page de MMA Talk, ça vous le savez pas là, mais j'ai été barré de publier sur la page de MMA Talk pendant un mois sous mon nom à moi. Heureusement, je suis un petit vite, fait que j'ai un deuxième compte Facebook que j'ai aucun ami dessus, là. Il est juste créé pour être administrateur de MMA Talk, comme ça s'il arrive de quoi avec mon compte à moi, Faberglass, ben je peux poster sur ce deuxième compte-là. Une maudite chance que j'avais ça, parce que sinon j'aurais perdu accès à ma page pendant un mois, et ce, parce que j'ai, d'habitude je partage les vidéos, mais là c'était Cyril, puis j'ai dit, hey, ça va me faire des views à moi, puis on s'entend, c'était une très mauvaise idée, ben, j'ai pris le clip, je l'ai posté sur MMA Talk, pas partagé, tu sais, si tu partages un clip de l'UFC, c'est correct, c'est un partage, ils ont leur crédit pis tout, pourtant, j'ai posté le clip, je les ai tagués, là, j'ai dit footage via UFC, nanana. Ils sont allés déliter ça sur Facebook. J'ai été barré de publier pendant un mois. Donc là, ici, je fais juste vous parler des KO et des soumissions et des fights. Puis vous irez voir tous les clips par vous-même si ça vous tente. J'aimerais ça, là, vous mettre un petit clip dans le bas ici à quelque part. Mais je me ferai pas déliter mon vidéo pour ça. Donc malheureusement, je ne peux pas. C'est pour ça que je n'en mets pas. Mais numéro 2, Raymond Daniels avec son 720 kick qui a fini en haut complet sur la gueule. Puis c'était absolument le knockout qui allait absolument être mon KO de l'année jusqu'au moment où mon KO de l'année est arrivé. Puis encore une fois, là, je suis convaincu que c'est consensus ici. C'est Jorge Masvidal Ben Askren. Jorge Masvidal Ben Askren, Flying Knee, UFC 239, 5 secondes. On l'a tous vu des millions et des millions de fois. Prends un sidestep, part à courir, le gel, sachant très bien que Ben Askren va commencer le combat penché de même en essayant d'aller direct pour ses jambes. T'sais, c'est un peu ça que Ben Askren fait. Masvidal l'avait lu, l'a allumé bien raide. C'est un knockout absolument magnifique, épique, sensationnel. Un des plus grands, sinon le plus grand KO de l'histoire des MMA, selon moi. Donc on n'a pas le choix de le mettre au numéro 1. On continue, là, je vais aller plus vite là, pour le restant de la liste, parce que je me rends compte que ça fait déjà comme une demi-heure quasiment qu'on fait ça, puis j'ai même pas commencé mes Off the Decade. Là, je voulais prendre une demi-heure pour chaque à peu près. Fait que c'est pas comme ça marche. Comeback of the Year, Comeback Win of the Year. Donc, victoire par retour en arrière. Quelqu'un qui perdait le combat, qui a effectué quelque chose pour gagner le combat, même s'il était pas en train de le gagner. J'ai pas de mention honorable ici. J'ai au numéro 10, Henry Corrales contre Aaron Pico. Numéro 9, Price, Nico Price contre Tim Means. Au numéro 8, Stefan Struve contre Marcos Rogério de Lima à l'UFC Prague. Au numéro 7, Irene Aldana face à Besh Correa, est en train de perdre un combat sans histoire et revenir qu'une soumission à la toute fin. 6, exactement. Henry Cejudo, Marlon Moraes à l'UFC 238, combat qui a très mal commencé par Cejudo, puis on sait tout ce qui est arrivé par la suite. Au numéro 5, Josh Emmett, Michael Johnson, il a perdu chaque seconde de ce combat-là au troisième round. Boom, plug un overhand en plein milieu, le fini, c'était à l'UFC Philadelphie. Au numéro 4, Jessica Andrade contre Thug Rose à l'UFC 237. Jamais j'ai vu quelqu'un avoir un aussi mauvais premier round puis quand même gagner un combat. Anthony Smith, Alexander Gustafsson. Pas très surprenant de voir Anthony Smith juste arriver puis gagner par comeback win. C'est un peu une gimmick là qu'il a dans sa carrière de jamais gagner ses combats mais quasiment toutes les gagner pareil. Mais contre Alexander Gustafsson, je pense que c'était quand même surprenant. Je m'attendais pas à ce que Gustafsson se fasse comeback comme ça. Ensuite, numéro 2. 4 seconds left, Jairzinho Rozenstruik face à Alistair Overeem à l'UFC Washington. Ça aurait très bien pu être le numéro 1, mais le numéro 1, je pense qu'on n'a pas le choix de le donner cette année à Stipe Miocic face à Daniel Cormier à l'UFC 241, de la manière dont j'en ai parlé, les body punch qui sortent au quatrième round pour aller gagner ce combat-là, qui est en train de perdre chacune des secondes de ce combat-là. Donc c'est ça pour mes comeback win of the year. On passe pour les soumissions maintenant, c'est le temps. Soumission de l'année, mes mentions honorables, Cron Gracie contre Alex Caceres à Phoenix. Zawada, c'est Ah, c'est lequel qui est dans l'UFC? David Zawada. Parce qu'ils sont deux frères, les David puis Martin. Il y en a un qui est dans l'UFC, l'autre dans KSW. Donc, le frère Zawada de l'UFC face à Aboubakar Nurmagomedov, le frère à Khabib ou le cousin à Khabib, je sais plus trop. À l'UFC Moscou, Paige VanZant contre Rachel Ostovich, armbar à l'UFC Brooklyn, Jack Hermanson, sa guillotine vraiment bizarre contre Dave Branch. C'est genre une guillotine, mais quasiment un arm triangle choke dans en dessous de la garde. Vraiment weird ce qu'il a fait d'aller chercher Dido. Très belle soumission. On a Jim Miller qui passe out Clay Guida à l'UFC Newark. Ça nous mène au numéro 10. On a vraiment des soumissions incroyables cette année. Au numéro 10, j'ai Primus, Brent Primus contre Wild, Gogo Plata au Bellator Birmingham. Pas le choix de mettre ça là, c'est Gogo Plata. Gary Tonnen contre Nakahara, son A-look à One Enter the Dragon. Vraiment A-look typique, magnifiquement fait par Gary Tonnen qui, dès qu'il met la main sur des gens, peut faire absolument ce qu'il veut avec au sol. Ensuite, Charles Rosa, Manny Bermudez à l'UFC Boston, un armbar tellement rapide qu'il était même pas passé que Bermudez est en train de verbal tap. C'est arrivé tellement rapidement, mais c'est tellement beau et tellement rapide. J'ai pas le choix de le mettre là. Aviv Ghazali contre Muravitsky au Bellator 225, un heel hook en 11 secondes. On a toutes vu le vidéo, c'était absolument magnifique. Tennyson, que je ne me rappelle plus son prénom malheureusement, sorry, contre Wilson, c'est le deuxième Gogo Plata, c'était au LFA 66, puis il était plus spectaculaire que celui de notre ami Brent Primus selon moi, donc pour ça je le mets plus haut. Ça nous mène au numéro 5, AJ McKee, Derek Campos, un armbar du dos absolument magnifique, donc il s'est lancé dedans, il l'a fini direct, wow, pour vrai, du gros joue de AJ McKee sur cette séquence-là, magnifique armbar. Ça nous mène à Corey Sandhagen face à Bautista Michel, qui s'appelle, hein, lui, Michel Bautista. Ah, c'est pourquoi je me rappelle plus, lui, il est tellement bon en plus, mais je suis pas sûr que c'est ça, Michel Bautista. C'est un armbar aussi à l'UFC Brooklyn, puis il l'a gardé là, pendant une minute, Bautista, tout de suite pour se défendre, puis les transitions pour arriver au finish dans ce combat-là. Absolument magnifique. Donc, c'est pour ça que ben, je l'ai au numéro 4. Au numéro 3, Charles Oliveira, David Teamer. Il est en train de se péter la gueule debout, le péter assez pour qu'il tourne le dos à l'action. Puis, une fois que son dos était tourné à l'action, ben, il a pété un anaconda. Tu l'as choqué, Beret. C'était magnifique. Je l'ai au numéro 3. Au numéro 2, my man, Cyril Gann face à Dontell Mays. Il était sur le top en train de délivrer du ground and pound. Il a entendu le 10 secondes. Puis, il a dit no way que je me pousse 600 finish, littéralement s'est lancé dans un hélo, là, s'est lancé sur, il était dans la garde debout, s'est lancé sur son dos dans le hélo directement, l'a fini à quelques secondes de la fin, chez les poids lourds, tout trempe à la fin de combat quand tout le monde avait sué, et puis c'est ça, numéro 2, Cyril Gann. Et au numéro 1, il y a beaucoup de must hein, cette année. Je pense que le combat de l'année, tout le monde a le même, c'est Adesanya Gastelum. Le code de l'année, tout le monde a le même, c'est Masvidal face à Ben Askren. Puis la soumission de l'année, j'ose espérer que tout le monde va avoir la même et que ça sera Bryce Mitchell face à Matt Sills, le deuxième twister de l'histoire de l'UFC à l'UFC Washington. Que dire de plus? Le dos, il a passé un twister, man. Fait que faites-y ces camo shorts, Reebok, s'il vous plaît, les boys, parce que ça n'a pas d'allure. Votre histoire. On va y aller avec le upset of the year maintenant. La surprise de l'année, la victoire inattendue de l'année. Mais mention honorable, Donald Cerrone face à Alaia Quinta. Ce cowboy n'était pas dans sa meilleure séquence. Ou il venait peut-être de gagner un combat, mais Alaia Quinta, après son combat contre Khabib, après son combat contre Kevin Lee, son profil était high. On pensait pas que Cowboy allait le battre comme ça. C'est arrivé. On a Rafael Lovato Jr. contre Gegard Mousasi au Bellator 223. John Fitch, qui est allé sortir un draw, un combat nul de Rory McDonald au Bellator 220. Toby Misek face à Eric Goyito Perez. Il a battu Eric Perez au Bellator 235. C'était une grosse surprise. Il l'a knocké au premier round solidement. Et finalement, Jack Hermanson face à Jacare Souza à Fort Lauderdale. Ça nous mène à notre top 10, numéro 10, Timofey Natsyukin face à Eddie Alvarez, un KO au premier round à One New World. On s'en attendait absolument pas que ça arrive, que Eddie Alvarez se fasse knocker dans ses débuts avec One. Ce qui est arrivé pourtant. Numéro 9, Kama Worthy. Qui, ouais, Kama Worthy se battait contre Devontae Smith. Était genre moins 600, de quoi de même. Plus 600, c'est-à-dire il fait underdog à 6 contre 1. A gagné par KO. on s'en attendait pas du tout. Je l'ai au numéro 9. Numéro 8, Charles Jourdain, Duo Choi. Oui, on s'en attendait peut-être un peu plus ici au Québec parce qu'on connaissait vraiment Charles Jourdain. Mais comme Charles l'a posté dans sa story l'autre jour, les votes sur Tapologie, c'était comme 92% pour Choi, 8% pour lui. Donc, une grande surprise pour la majorité des partisans d'MMA que de voir Jourdain battre Duo Choi à Busan. Au numéro 7, Smith contre Gustafsson. Comme je l'ai dit tantôt, je pensais pas qu'Anthony Smith allait comeback sur Gustafsson comme ça. Pourtant, il le fait. Ensuite, Roxanne Modafferi face à Antonina Shevchenko, la sœur de Valentina. C'était à Saint-Pétersbourg. Jamais, moi, je pensais que quelqu'un de si peu athlétique comme Modafferi allait réussir à take down âprement quelqu'un d'autant athlétique que Antonina Shevchenko. Donc, grosse surprise pour moi. Ensuite, on tombe dans le top 5. Pettis contre Wonderboy à Nashville, numéro 5. Numéro 4, c'est Masvidal contre Till. On s'attendait pas à ce que Masvidal batte vraiment à Till. Il était pas encore le Street Jesus qu'on le connaît comme étant aujourd'hui. Au numéro 3, Kai Asakura qui passe un KO à l'imbattable Kyoji Horiguchi au Risen 18. C'était absolument imprévu. Au numéro 2, une des plus belles histoires de l'année, un des plus beaux moments de l'année, Tristan Connolly face à Michel Pereira à l'UFC Vancouver. On en a parlé, c'était absolument magnifique. Le short notice, un 155 livres contre un gars qui devrait probablement se battre à 185. Le gazard de Beret de la battu par décision, c'était magnifique. Finalement, l'upset of the year, la surprise de l'année, selon moi, c'est Irene Aldana face à Caitlin Vieira à l'UFC 245. Qui pensait qu'Aldana allait arriver là puis sortir Vieira de sa game là, complètement? Le fait de battre Angry, le fait de battre, t'sais, il était fâché, il était émotif, il était littéralement Cody Garbrandt, puis elle s'est fait reserve de Cody Garbrandt treatment, c'est-à-dire elle s'est fait knocker ben raide. On passe à la prochaine catégorie des honneurs de fin d'année, c'est la pire décision de l'année, la plus mauvaise décision des juges, mais cette année, il y a eu d'autres décisions, là, des stoppages, des arbitres, des choses comme ça, que j'ai décidé d'inclure dans la liste parce que c'était vraiment egregious as fuck. So, let's go for the honorable mentions. Shake Congo contre Vitaly Minakov, c'est non seulement un gros bas à chier, mais c'est une décision de merde. Thiago Alves contre Max Griffin, Griffin aurait dû gagner ça absolument. Augusto Sakai contre André Arlovski, Arlovski qui est bon pour se faire voler un peu par les juges là, dans ces derniers temps. Soit il se fait knocker ben raide, soit il se fait voler par les juges. Patricio Pitbull Freire contre Michael Chandler, le stoppage de l'arbitre, là, c'était un peu hâtif dans ce combat-là. Et finalement, Blago Ivanov contre Ben Rothwell à l'UFC Wichita. Je pense que Big Ben avait probablement gagné ce combat-là. Ça nous mène au top 10. Et c'est le stoppage de Henry Cejudo contre TJ Dillashaw que j'ai au numéro 10. Et ça allait venir éventuellement. Dillashaw s'est quand même fait dropper deux fois en genre 10 secondes dans ce combat-là. Mais je pense qu'il était pas complètement out. Je pense qu'il aurait eu droit à quelques secondes de plus. En plus, quand j'ai fait un poll sur mon groupe, il y a beaucoup de gens qui avaient voté pour ça. Donc je l'inclus au numéro 10. Au numéro 9, Hunter Azur contre Brad Katona à l'UFC Vancouver. Je pensais vraiment que Brad Katona en avait fait assez pour gagner ce combat-là. Je comprenais pas vraiment la décision. C'est pourquoi je l'inclus. Numéro 8, Alexander Hernandez contre Francisco Trinaldo. Hernandez s'est pas battu dans ce combat-là. Il s'était fait knocker par Cowboy à son combat d'avant, puis il semblait vraiment être choqué un peu par ça. Puis il est vraiment allé d'une approche super conservatrice. Puis je pense que Trinaldo en avait fait assez. C'est un shame qu'il n'ait pas gagné ce combat-là. Le monde de San Antonio était bien content parce que c'était chez Alexander Hernandez. Mais bref, ça avait pas d'allure comme décision. Ensuite, on rentre dans le volet Volkan Ozdemir, alors qu'on a au numéro 7 Dominic Reyes face à Volkan Ozdemir à l'UFC London, Londres. Je pense que Volkan aurait dû gagner ce combat-là. Je pense qu'il en avait fait assez. Ça nous mène au combat d'après, le numéro 6, Volkan Ozdemir face à Alexander Rakic. Si les bonnes personnes gagnaient les bons combats. D'après moi, Reyes perdait contre Ozdemir, ne se battait pas contre Jones, probablement genre Blakovic qui avait le title shot. Et puis, Rakic devait battre Ozdemir à Busan, selon moi, selon ce que j'ai scoré le combat. Et ça fait que c'est probablement Rakic qui sera en attente pour un title shot après avoir toute une séquence victorieuse dans cette division-là. Malheureusement, première défaite à vie. Et puis, c'est une défaite qui va sûrement être très amère parce qu'il aurait probablement dû gagner ce combat-là. Même s'il s'est fait kicker il avait l'air d'avoir un ballon de soccer en dessous de son genou, tellement sa jambe était enflée. Mais c'est la seule chose qu'Ozdemir a faite dans ce combat-là. Et puis, je pense que Rakic a landé les meilleurs coups debout. Il aurait dû gagner. Bref, on s'éternise pas. On passe au numéro 5. Claudio Silva face à Danny Roberts à l'UFC Londres. Genre de que l'arbitre call a verbal tap sur un armbar. Moi, je pense qu'il avait pas tapé. Je pense que c'est du bullshit complet. Puis ça mérite sa place au numéro 4. Ben Askren face à Robbie Lawler. On en a discuté et beaucoup. Donc, je pense qu'on en reparlera pas. Mais tout le monde est pas mal d'accord pour dire que Robbie Lawler était correct dans ce combat-là. Là. Ça aurait dû continuer. Ensuite, la décision. Moi, personnellement, j'ai scoré ce combat-là pour Marlon Moraes, mais il y a tellement de gens qui pensaient qu'Aldo avait gagné ce combat-là que j'ai pas le choix de le mettre sur la liste, j'ai pas le choix de le mettre au numéro 3, José Aldo face à Marlon Moraes à l'UFC 245. Ensuite, au numéro 2, selon moi, la pire décision de l'année, Casey Kenney contre Ray Borg. Oui, Kenney a connu quand même du succès en défendant des takedowns, en empêchant Ray Borg de l'amener au sol, mais Ray Borg l'a quand même beaucoup amené au sol dans ce combat-là. Et non, il a pas fait beaucoup avec ses takedowns parce que Casey Kenney se relevait à tous les fois, mais je pense pas que c'est comme... Faut que t'aides l'offensive dans un combat pour le gagner. Le fait de juste défendre les takedowns de ton adversaire puis te relever quand il te takedown, je pense pas que c'est assez pour te donner un combat. Non, Ray Borg n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait dans ce combat-là, c'est-à-dire amener le combat au sol puis dominer son adversaire là, mais Casey Kenney n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait dans ce combat-là non plus, ce qui est absolument tout autre qu'être pris dans le clinch contre la cage avec Ray Borg, et ce, pendant 15 minutes. Donc, selon moi, la pire décision de l'année à l'UFC Philadelphie, mais j'ai écouté mon pool de gens qui ont voté et j'ai décidé de donner le numéro 1 à celui qui a reçu le plus de votes. Il y a une décision qui est assez mauvaise aussi, selon moi. C'est Paulo Costa face à Yoel Romero à l'UFC 241. Si on peut dire une affaire de négatif par rapport à ce combat-là, c'est la décision. Donc, voilà. On le voit rapidement pour les catégories qui nous restent. Pire combat de l'année, je vais juste les nommer, je veux même pas en parler, je veux les oublier, j'en ai juste 5. Mais c'est Cheick Kongo contre Vitaly Minakov. Mara Romero-Borella face à Tayla Santos. Derek Brunson, Elias Theodorou à l'US Ottawa. Oh, sacrifice qu'on s'en rappelle de celle-là. Valentina Shevchenko, Liz Carmouche à l'UFC Uruguay. Écoute, j'étais en vacances, je suis revenu, j'ai entendu dire que c'était le pire combo ever. J'ai commencé le premier round, puis après j'ai juste fait plus 30 secondes, plus 30 secondes, plus 30 secondes sur mon fight pass, et ça pour tout le combat, puis ça avançait pas, même en skippant de 30 secondes de fois en fois, il y a rien qui se passait. Donc j'ose pas imaginer ceux qui ont vécu le 25 minutes au complet. Et mon numéro 1, non seulement c'est un très mauvais combat, mais c'est la déception de l'année. C'est le grudge match qu'on s'attendait à ce que ça soit du show, que les deux gars veulent s'arracher la tête, deux strikers, puis ils ont décidé d'essayer de out-wrestle. En fait, Paul Daly contre MVP, là, c'est ça le numéro 1. Paul Daly a essayé d'out-wrestle MVP, puis il est tellement mauvais au sol qu'il a réussi à de l'out-wrestle, mais il s'est fait out-grapple par un gars qui sait absolument pas grapple. J'ai vu des combats de compétition de jiu-jitsu, de white belt, meilleurs que ça. Fait que fuck that fight, je vais plus jamais n'entendre parler. On passe à quoi être plus positif. Le moment de l'année, le single moment qui a fait wow, quel moment incroyable voir que je viens de vivre ça. Mention honorable sont Wiley Zhang qui gagne le titre face à Jessica Andrade en Chine devant ses partisans. Ensuite, Jessica Andrade qui slam Thug Rose. Triple C à l'UFC 238, je l'ai pas dans le top 10 parce qu'il me tape ses nerfs, mais c'est un grand moment. Stipe qui obtient sa revanche face à Daniel Cormier à l'UFC 241. Et ma dernière mention honorable, c'est Cyril Gann contre Dom Tillmans, la performance, puis le Halo à la fin. Absolument incroyable, je sautais partout, c'était ridicule. Numéro 10, Adesanya au round 5 face à Kelvin Gastelum. Il nous a prouvé qu'il était for real, que c'était the next champion, the next big star in MMA. Et puis, ben, tout semble se confirmer, là, depuis. Mais c'était vraiment son coming out party, son moment. Numéro 9, on en a parlé. Tristan Connolly face à Michel Pereira. L'upset, la victoire du Canadien devant ses partisans à Vancouver. Magnifique. Il est maintenant le Canadien BMF grâce à cette performance. Numéro 8, un des moments hors cage. Nate Diaz qui fume un joint au Open Workout de l'UFC 241. Quel boss move. Numéro 7, Marc-André Barriot en fin de deuxième ronde qui passe à ça de finir Andrew Sanchez. C'était absolument magnifique. On passe au numéro 6, Askren contre Lawler, le round 1, toute la madness, toutes les affaires absolument ridicules qui sont arrivées dans ce petit moment de combat-là. Mérite sa place sur la liste ensuite, Masvidal passe le KO à Darren Till, va se faire une entrevue backstage et se bat contre Leon Edwards, lui donne le fameux three-piece and a soda, le moment qui a lancé là, l'année absolument incroyable de Jorge Masvidal, donc je l'ai. Au numéro 5. Au numéro 4, Kamaru Usman casse la mâchoire de Colby Covington. quoi de plus poétique que le gars qui dit le plus de merde dans tout le sport, qui se fait casser la mâchoire, c'est ce qui est arrivé, c'est le quatrième plus beau moment de l'année. Au numéro 3, BMF Title Fight, le combat de BMF, tout l'engouement autour de ça, tout le moment que ça a créé. Comme je vous ai dit, on avait vraiment l'impression là d'avoir vécu un moment très spécial dans le sport quand ce combat-là a eu lieu. C'est pourquoi je l'ai au numéro 3. Au numéro 2, Charles Jourdain passe le KO à Duo Choi. J'étais en train de faire un live stream. Il était comme 7h du matin. J'essayais de pas réveiller personne. Pourtant, j'ai sauté partout. Je pense que j'ai cogné sur le plafond de ma chambre, même en sautant. C'est absolument magnifique. Un des plus grands moments. Charles le mérite tellement. Puis on l'aime tellement, notre petit Charles Jourdain ici, que c'est un grand moment. Puis on est vraiment content pour lui. Cependant, on n'a pas le choix de donner le moment de l'année, l'instant le plus épique de l'année en arts martiaux mix, au baptême de Ben Askren par Jorge Masvidal, en 5 secondes, à l'UFC 239. On en a déjà parlé. Quel moment absolument incroyable. Passons maintenant à... Il reste 3 catégories. On a presque fini, les boys, avec récompenses de l'année 2019. J'ai un top 10 des nouvelles de l'année, là, les headlines, les nouvelles qui ont fait le plus parler. Au numéro 10, Cyborg contre Dana White. Toute la chicane qu'il y a eu. Le fait qu'elle campaignait pour un fight avec Amanda, puis finalement, Dana l'a juste laissé aller, ne l'aura pas signé à la fin de son contrat, et elle a signé avec Bellator. Au numéro 9, moins le fun, mais ça a été comme un underline toute l'année. Finalement, ça a été reporté, puis on en a un peu parlé, mais les gens veulent pas trop en parler, mais c'est quand même un storyline très important. Conor McGregor, qui est présentement sous enquête pour 2 agressions sexuelles différentes à Dublin. C'est de la merde, on n'a pas le choix d'en parler. Au numéro 8, Triple C, pour l'ensemble de son œuvre, on l'haït. On l'aime pas, il est fatigant, il est cringe-worthy, il s'appelle The King of Cringe, c'est pas pour rien, mais le gars fait parler de lui, puis les gens en parlent pareil, même s'il tape ses nerfs à tout le monde, les gens en parlent, donc on n'a pas d'autres options que de l'écouter, malheureusement, puis ça a été un des plus gros headlines de l'année, on n'a pas le choix de le mettre là. Je viens de dropper quelque chose à terre, ça a fait du bruit, c'était fatigant, mais on l'a au numéro 8, Triple C, dans l'ensemble de son œuvre. Au numéro 7, Greg Hardy. Encore une nouvelle un peu négative, mais tu sais, début dans l'UFC, là, toutes les controverses qu'il y a eu à chacun de ses combats au presse, le Inhaler Gate, la fois qu'il a pris sa pompe à l'as, entre les rounds. Pour l'ensemble de son œuvre, encore une fois, Greg Hardy, bravo, on espère que tu resteras pas ici trop longtemps. Au numéro 6, GSP prend sa retraite. Je le mets pas plus haut parce qu'on... On n'est pas sûr qu'il est retraité vraiment à GSP, pour être honnête avec vous. Puis même à la conférence de presse, qui annonçait sa retraite, il a dit que ben, s'il y avait un offre pour affronter Khabib, ça valait la peine, il allait le faire. Donc, pour ça, je le mets pas plus haut. On n'est pas super confiant qu'il a pris sa retraite, mais ça a quand même été une conférence de presse qu'il a lu au mois de février. Puis la plus grande star de l'histoire du sport, ou le plus grand combattant de l'histoire du sport, devrais-je dire, a annoncé sa retraite. Donc, voilà. Numéro 5, là, on rentre dans les grosses nouvelles. Colby Covington, encore une fois pour l'ensemble de son œuvre, toute la merde qu'il a dit et qu'il a faite cette année. On n'a pas le choix de lui donner une mention, même s'il nous fait chier que le Christ. Au numéro 4, j'étais en vacances, quand je suis revenu, c'est la première affaire que j'ai vue. J'étais crampé, j'ai dit, il n'y a rien de plus Conor McGregor que ça. Mais j'ai nommé cette nouvelle-là dans mon ordi, là, je vous lis mot pour mot ce que j'ai écrit. Conor punches old fuck in a bar. Ça parle de soi. Numéro 3, l'invasion nigérienne. Israël Adesanya, Kamaru Usman, et puis on a Sadiq Youssouf qui est on the rise aussi, qui va devenir leur title challenger absolument dans l'UFC. Donc l'invasion des Nigériens dans l'UFC cette année, gros storyline, sont maintenant rasés avec 2 champions. Et puis j'ai le numéro 3. Au numéro 2, on a besoin d'un peu de négatif dans le top 2, hein. TJ Dillashaw se fait prendre pour de l'EPO, et se voit donner une suspension de 2 ans. Il était champion, le premier champion de l'UFC, qui se fait vraiment prendre pour de la grosse sauce sale, puis qui se fait suspendre. On parlera pas de John Jones, puis de picogram, puis ses tests de patente qu'il a sûrement pogné dans un dick pill bizarre. Moi, pour vrai, je l'ai dit à 100 millions de reprises, je suis convaincu que beaucoup de gens se dopent en MMA. Je suis convaincu que John Jones n'a jamais pris des stéroïdes dans un check. Tu sais, boys, je prends des stéroïdes. John Jones, c'est l'estide de tata que tu lui donnes n'importe quoi, puis il dit, hey, ça, gros, c'est de la poudre, ça, Jones. Ah, oh, ouais, c'est de la poudre, ok. Puis il va l'essayer, puis il va penser que c'est vraiment ça. Puis je pense juste que c'est un estide de domé qui prend pas, tu sais, responsabilité pour ses actes, puis qui est pas assidu, qui est pas organisé, qui regarde pas, qui prend pas t'sais, les étapes nécessaires pour s'assurer que tout ce qu'il fait, c'est correct. C'est le genre de gars un peu insouciant, un peu dommé, que si tu lui dis « Oh, fais-moi confiance, ça, c'est à l'affaire, t'auras pas de problème », il va faire « Oh, ben oui, je te fais confiance », puis il va le prendre. Donc, c'est ça. Dillashaw, selon moi, le premier champion là, de l'UFC qui se fait pogner pour de la grosse sauce sale là, de l'EPO. C'est pas n'importe quoi. Et puis, c'est un gros headline de l'année. Et le numéro 1, Jorge Masvidal. Nate Diaz and the BMF title fight. Au début de l'année, c'était plus Jorge Masvidal, son histoire, sa résurrection, le fait qu'il est devenu Street Jesus, qui baptisait tout le monde, le three-piece and a soda, toute la patente au complet, et finalement, Nate Diaz qui fait son retour, qui est en soi une grosse headline de l'année, là, et puis qui call out Masvidal après sa victoire, donc quel... situation parfaite pour juste réunir ces deux stories-là en une grosse story qui aura dominé cette année, qui aura donné les meilleurs moments de l'année, comme on vient d'en parler depuis quasiment la dernière heure. Jorge Masvidal. Et on va passer au Fighter of the Year. Esti, t'as qu'à parler d'Jorge Masvidal, je veux pas spoiler mon numéro 1, mais voici mes mentions honorables. Jeff Neal, Vicente Luque, Jared Cannonier, Leon Edwards, Edmund Shabaziano, numéro 10, Irene Aldana, 4 combats, 3 victoires, 1 défaite, sa seule défaite, assez douteuse, par split decision, elle aurait pu gagner ce combat-là facilement, et donc être 4-0, elle vient de battre Caitlin Vieira, s'établir comme une future contender, j'ai pas le choix de la mettre là. Numéro 9, Corey Sandhagen, j'ai un peu de la peine pour lui, parce que d'un, il vient de perdre son mega fight contre Frankie Edgar, de deux, j'ai l'impression que c'est le meilleur combattant bantamweight après Peterian, puis là, il est comme dans l'ombre de Peterian après ce que Peterian vient de faire, et nous, on va parler évidemment de Peterian dans quelques instants, donc j'ai au numéro 9, Corey Sandhagen, avec une très belle fiche de 3-0, ensuite au numéro 8, 4 combats, 4 victoires, une entrée très remarquée dans l'UFC, un des highlights of the year avec sa victoire à 4 secondes de la fin face à Overeem. J'ai Jairzinho Rozenstrike. Au numéro 7, Wiley Zhang gagne le titre devant ses partisans, pas le choix de lui donner le crédit. Au numéro 6, Alexander Volkanovski. Il a battu Max Holloway, guys, et ça de façon assez claire et décisive, donc pas le choix de lui donner ses props. Au numéro 5, le dernier non-champion, je vous dirais, à être sur la liste, c'est Peterian. Quelle année absolument incroyable. Je pense qu'il a convaincu tout le monde qui était le meilleur bantamweight au monde, probablement. C'est sûr qu'il y a encore Seudo, mais Seudo, autant il est présent de par son talk, trouve souvent le moyen de se faire oublier, ce pauvre dude-là. Donc... c'est ça qui arrive, Kamaru Usman, c'est le pic d'en haut, hein, si on passe au numéro 4, Kamaru Usman, quelle année, gagne le titre, peut l'aller à la Colby Covington, devient un des héros de tout le monde, way to go my man. Numéro 3, Henry Cejudo, bien que s'est battu très tôt dans l'année, puis après il s'est blessé pour tout le restant de l'année, puis on a eu le temps de l'oublier, ben il est resté présent, puis il est quand même... défendu son titre flyweight contre le champion bantamweight avant de se battre pour le titre bantamweight vacant parce que l'autre dude était sur le PO et gagner face à Marlon Moraes, qu'on sait tous, est absolument excellent. J'ai pas le choix de le mettre là. Numéro 2, je pense que c'est la catégorie où on peut le plus hésiter, on peut plus dire oh non, moi je pensais lui, oh non, moi je pensais lui. Au numéro 2, j'ai Israel Adesanya avec une fiche de 3 victoires, aucune défaite. A battu Anderson Silva, son idole. A battu Kelvin Gastelum pour la sécurité mère. A battu le champion Robert Whittaker pour s'établir comme étant une des futures plus grandes stars de l'histoire de l'humanité. Shout out to him, mais le numéro 1, Jorge Masvidal. Et qui est le BMF champion, le champion absolu. Puis à ce temps qu'on entend Dana dire oh, peut-être Connor veut la belle BMF, peut-être que je la remettrai finalement peut-être en jeu, même si j'ai dit que c'était absolument un one-off. Fait que regarde, je pense qu'on peut considérer Jorge comme étant un champion maintenant. Il est le BMF champ. Il est probablement un des plus gros money fight dans toute l'UFC. C'est même rendu que c'est Conor McGregor qui court après lui, plus que lui qui court après Conor McGregor. Ça fait juste dire à quel point il est important dans le sport. On termine là, pour 2019 avec les événements de l'année. J'en ai 10. Ça sera pas d'explication là-dessus. Je vous l'ai nommé. On est au numéro 10. UFC on ESPN 1, Phoenix, Ngannou contre Velasquez. Au numéro 9, c'est le ESPN Plus 1, la première carte de l'année, c'est Udo contre Dillashaw à Brooklyn. Numéro 8, Bellator 225, 14 fights, 14 finishes, Mitrione contre Kharitonov 2. On a l'UFC on ESPN 19, plus 19, c'est-à-dire, c'est que c'est fucké, hein? Alors maudit numbering d'événements, il n'y a rien à comprendre là-dedans, mais bref, ce UFC-là, là, à Tampa Bay, Joanna contre Watterson, c'est ça que j'ai au numéro 7. Au numéro 6, One New Era, c'était le One 100 là, au Japon, avec genre 4 title fights, Demetrius Johnson, Eddie Alvarez, toute la patente. C'était une énorme carte, la plus grande de l'histoire, puis ça a absolument deliver, la plus grande de l'histoire de One, évidemment, là, mais ça a super deliver, donc shout out to them for that UFC on ESPN Plus 2, carte absolument ridicule. La carte qui n'est pas un pay-per-view qui était la meilleure carte de l'année. C'était à Fortaleza au Brésil. C'était au tout début de l'année, je pense, la deuxième carte de l'année. Asunção contre Moraes. Notamment, il y avait Aldo aussi contre Moicano sur cette carte-là. Maia contre Good. Oliver contre Teamer. Johnny Walker qui knock Cirkunov en 15 secondes. Toute carte absolument géniale. Et on passe maintenant au top 4, au numéro 4. UFC 241, le retour de Nate Diaz et Stipe contre Daniel Cormier 2. UFC 239, au numéro 3, le KO de Jorge Masvidal, Jones contre Santos. Numéro 2, The BMF Card, UFC 244, que j'ai passé à ça, mais je vous dis à ça, de mettre devant l'UFC 245, qui est selon moi l'événement de l'année, qui n'aurait pas été l'événement de l'année si ça n'avait pas été du main event, parce que les deux combats avant... C'est Volkanovski contre Holloway, ça a été bon. Ça n'a pas été le grand spectacle d'un combat de Max Holloway habituel. Et puis, Nunes contre Duranami, ça a été bon pour les deux premiers rounds. Ça a été absolument merdique pour les trois derniers. Donc, le main event, il est venu sauver la carte. Mais tout ce qui s'est passé avant ça, c'était absolument génial. Là, c'est une des plus grandes cartes. Petterian contre Uriah Faber. Jeff Neal qui détruit Mike Perry. C'était une carte absolument excellente. C'est la carte de l'année, selon moi. Et puis, ben, je la place comme meilleur événement de l'année 2019. Ça conclut pour ce qui est de mes récompenses de fin d'année, mes listes de fin d'année 2019. On est prêt à passer à mes listes de la décennie.